déjà commencé il y a bien des semaines. Et nous avançons doucement mais sûrement. Nous arrivons au chapitre 4 ce matin. Et nous voulons lire les versets 21 à 28. Le verset 28 étant un nouveau paragraphe, mais la première phrase de ce verset 28 me paraît tout à fait pertinente pour lier et clôturer le paragraphe qui précède. Donc nous faisons lecture dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, les versets 21 à 28, pour la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever. Galates chapitre 4, versets 21 à 28. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie. Car ces femmes sont les deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, nous nous plaçons ce matin et avec joie devant toi. Seigneur, ce matin, nous voulons nous asseoir à tes pieds. Nous voulons nous placer à ton écoute. Nous voulons te dire, parle Seigneur, tes serviteurs, écoute. Seigneur, ce matin, nous te prions que ton Esprit Saint nous donne de comprendre ta parole, de la comprendre dans le sens littéral du terme, de la faire nôtre, d'apprendre avec nous. Te demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint nous donne donc de la saisir, de la comprendre, d'en trouver son sens, de trouver en quoi elle s'applique à nous, en quoi elle peut s'appliquer dans ma vie, celle qui est là, et en quoi, Seigneur, par l'effet de ta parole, qui ne retourne pas à toi sans avoir fécondé la terre, sans avoir travaillé nos cœurs et nos pensées, nous te prions que l'effet de ta parole en nous nous donne de grandir dans notre culte quotidien, dans notre vie, notre service, notre adoration à tout instant de la journée et de la nuit. Seigneur, que ta parole, en effet, nous transforme et nous donne de nous trouver plus proches de toi. Alors notre prière, Seigneur, c'est que ton Esprit Saint, qui a donné à ce que l'apôtre Paul parle en ton nom, comme pour les prophètes, te prions que ce même Esprit Saint ce matin nous parle et nous donne de recevoir cette parole qui est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité de ta parole. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à reprendre place. Et je commence avec une citation de Jean Calvin qui dit ceci. « Il n'y a personne, si hors de sens soit-il, il n'y a donc personne qui, si on lui laisse le choix, n'aima mieux la liberté que la servitude. » Or, Paul enseigne ici, Calvin parle du texte que nous avons lu, or Paul enseigne ici que tous ceux qui sont sous la loi sont serfs. Aussi sont-ils bien misérables, ceux qui de leur propre gré désirent cette condition, vu que Dieu veut les en délivrer. Fin de citation de Jean Calvin. Alors, le texte que nous avons lu ce matin, alors, je dis ça de temps en temps, mais là, vraiment... Vraiment, il y a de quoi faire 3-4 messages et pas des moindres. Il y a énormément de choses dans tout cela et comme il m'arrive régulièrement de le faire, nous n'allons pas tout traiter, mais je vous invite à aller vers ce que je crois est l'essentiel. Après, on peut aller dans toutes sortes d'autres détails, mais j'aimerais commencer à relever cette question que Paul pose aux Galates. Paul, en effet, les questionne. Je rappelle que il s'adresse aux Galates depuis le début de cette épître pour les reprendre d'une profonde déviation qu'ils ont prise. Ils ont entendu l'évangile, on l'a vu d'ailleurs dimanche dernier, ils ont connu Dieu, et surtout, dit Paul, ils ont été connus de Dieu, donc ils ont reçu l'évangile, ils ont pris l'évangile avec eux, et parce que des enseignants sont passés par là, se faisant passer comme des gens, des connaisseurs de l'évangile venant de Jérusalem, eh bien, les Galates se sont détournés et ont sombré dans ce que l'on appelle le légalisme. Et ainsi, Paul va reprendre argument sur argument. Il va montrer dès le départ que ces docteurs, ces enseignants, qui sont-ils par rapport à lui? Paul peut dire, moi, c'est même pas que je l'ai voulu, mais j'ai été interpellé par Jésus-Christ lui-même. Je suis un apôtre de Jésus-Christ. J'ai vu le Christ ressuscité. J'ai été inclus dans le cercle des apôtres. Eh bien, ne croyez-vous pas que j'ai un mot à dire sur les fondations de l'Église et de l'Évangile? Et Paul va d'argument en argument. Eh bien, ici, après une série d'arguments déjà faites, Paul les questionne, il continue, et il va continuer avec cette allégorie, mais sa question c'est « Dites-moi, Galates ». Je rappelle aussi que Galates, c'était les Gaulois. « Dites-moi, Françaises et Français, expatriés par la bande Galatie, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi ? Vous qui voulez être sous la loi, est-ce que seulement vous avez compris à quoi vous vous engagez ? » Alors, pour saisir un tout petit peu, je vous propose une parenthèse dans l'histoire biblique. Et vous allez me dire, ça n'est pas forcément lié, mais j'espère que vous allez voir que c'est lié quand même. C'est une illustration du premier roi d'Israël, du roi Saül. Dans le livre de Samuel, nous trouvons une illustration assez pertinente de ce récit du peuple d'Israël qui, alors c'est pas dit comme ça, mais je crois qu'on peut le comprendre comme ça, ce peuple d'Israël qui refuse de vivre par la foi. C'est-à-dire qu'il refuse de prendre ce qui lui est donné par Dieu lui-même, sachant que Dieu est son roi, que Dieu est son juge, que Dieu est son guide. Eh bien, nous voyons que le peuple refuse cela. Dieu leur demande en effet de vivre une alternance, une véritable alternance par rapport au monde environnant. Et ces croyants de l'Ancien Testament ne veulent pas être différents. Ils veulent être comme le monde environnant ici. Et voici ce qu'ils disent à Samuel, « Établis sur nous, pour nous juger, un roi, comme en ont toutes les nations. » On veut un roi, non pas parce que ce serait bon, mais parce qu'on veut être comme les autres. Parce qu'on veut avoir des équivalences avec les autres ici. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas toi, Samuel, qu'il rejette, c'est moi. » En disant ceci, c'est moi qu'ils rejettent pour que je ne règne plus sur eux. Le peuple ne veut plus que je règne sur eux. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui règnera sur eux. Alors, la question que Paul pose aux Galates, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Je vous propose, pour continuer dans notre introduction ici, d'entendre la question telle que Samuel peut la poser au peuple d'Israël. Dites-moi, vous qui voulez être sous un roi, vous qui voulez être sous ce roi, n'écoutez-vous pas ce roi? Sous-entendu, voulez-vous vous placer dans une obéissance? Écouter, obéir étant la même racine verbale. Et voulez-vous obéir à ce roi? Laissez-moi vous dire quelles vont être ses exigences. Qu'est-ce que ce roi va vous imposer? Qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il en disposera pour ses chars et parmi ses cavaliers. Il en disposera pour labourer ses terres, récolter sa moisson et fabriquer ses armes de guerre. Et je résume, il y a beaucoup plus de choses ici. Et il prendra aussi vos filles et il prendra les meilleurs de vos champs. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, il prendra la dîme de votre petit bétail et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi. Et j'entends Samuel dire, c'est ça que vous voulez? C'est vraiment ça que vous voulez? est la réponse du peuple. Il refusa d'écouter la voix de Samuel, disant, « Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. » Obstinés dans ce qu'ils veulent, sans voir ce qui va se passer, sans en voir les conséquences. Et quand on lit le livre de Samuel, eh bien on voit que ce roi, le roi Saül, va être un véritable désastre pour Israël. Relevons d'ailleurs, parmi beaucoup de choses, relevons une chose que va faire ce roi, et qui pour moi est en lien avec les Galates ici. Saül va mener une guerre, alors il va en mener beaucoup, mais celle dont je parle est particulière. Il va mener une guerre, en menant cette guerre, il va dépouiller la nation d'Israël. Cette guerre, il va la mener en se trompant d'ennemis. Saül se trompe d'ennemis parce qu'au lieu de combattre l'ennemi qui est autour d'Israël, il combat David. Il combat celui qui lui est posé à ses côtés, celui dont il est clair qu'il va devenir le roi d'Israël, et il va combattre David. Si vous relisez le texte, c'est frappant de voir qu'il fait la part belle au camp ennemi et qu'il va chasser David, il va chercher à le tuer à plusieurs reprises. Il va s'opposer à David, qui sera figure du Messie, celui qui pourtant était à son service, celui qui rendait la liberté au peuple. Paul dit aux Galates, « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi ? Ne voyez-vous pas l'erreur magistrale que vous faites de vous remettre sous un joug et de vous rendre esclave de ce joug et de vous rendre misérable ? Ne voyez-vous pas que la situation sous laquelle vous vous mettez vous écarte du Messie et vous fait que vous vous trompez de combat, que vous êtes en train de passer sur une totalement fausse route et de ne pas vous combattre ce que vous devriez combattre ? En faisant le choix du légalisme religieux à la place de l'Évangile, vous manquez toutes sortes d'épisodes. Et c'est un petit peu ce qu'on a relevé depuis le début de cette épître, de voir tout ce que ces chrétiennes et chrétiens des Galates manquent. Ils manquent les fondations. Ils manquent les fondations apostoliques, pour n'en citer que quelques-unes. Ils manquent le sens des Écritures. Ils citent les Écritures, mais ils ne voient pas que ces Écritures prennent du sens par l'Évangile de Jésus-Christ et passent à côté d'un nombre de textes qui sont dans leurs yeux et qu'ils revendiquent pourtant devant eux, en ne voyant pas l'accomplissement en Jésus-Christ. On avait même relevé, avec le calendrier liturgique qui s'y prêtait, on avait même relevé qu'eux qui veulent tellement marquer les temps de fête, eh bien, ils manquent la Pâque. Ils ne voient pas que la Pâque juive devrait les mener à être comprise par la Pâque chrétienne. Ils ne voient pas que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est celui qui est venu pour donner sa vie et qui va mourir, être enseveli et ressusciter le troisième jour ici. Donc il manque Jésus avec ce manquement de l'Évangile. Et on a vu également qu'il manque Pentecôte. Il manque la réalité du Saint-Esprit qu'il révèle qu'ils sont fils de Dieu, etc. Tout ce qu'ils peuvent manquer ici et maintenant, voulez-vous spolier le fait que vous êtes enfant de la promesse. Intéressant de voir Paul dire « Vous êtes enfant de la promesse, mais en fait vous êtes en train de vous mettre sous un joug qui fait de vous des enfants de la servitude. » Vous êtes enfant de la promesse. Et chose intéressante, que dit Paul ? Car vous l'êtes. Voulez-vous manquer le sens, le vrai sens de ce que veut dire être fils d'Abraham ? Vous voulez revendiquer ce titre en retombant dans un certain judaïsme, vous voulez revendiquer des fils d'Abraham, mais en réalité, comme vous avez manqué le reste, vous êtes en train de manquer la réalité profonde de ce que veut dire être un fils d'Abraham. En fait, tout ça c'est des paraphrases que je fais, mais je continue dans la paraphrase pour entendre Paul leur dire « Savez-vous que vous commettez la même erreur que les docteurs de la loi qui argumentaient avec Jésus-Christ lui-même » Rappel. Jésus se trouve avec eux. Et après tout un entretien, ils en arrivent à un point, ils le dirent, donc les pharisiens, les docteurs de la loi répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Et Jésus leur dit, « Si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Et ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Eh bien, Paul, dans ce texte, est dans exactement la même argumentation, laissant comprendre le réel sens de l'héritage d'Abraham. Et pour cela, Paul use d'une allégorie sur fondement de textes bibliques. Alors, l'allégorie, pour se rappeler un petit peu ce que cela veut dire, c'est dire quelque chose de profond, dont le but a un sens autre que littéral. Ici, Paul, en effet, prend un récit réel dans l'Ancien Testament, il prend un récit biblique, un récit fondateur de l'histoire et ô combien fondateur, et il va l'utiliser pour exposer une autre réalité, et en fait, il n'invente rien. Il va faire ce que Ésaïe a fait déjà, et ce que d'autres ont fait, mais Paul va reprendre cet exemple pour exposer donc une réalité spirituelle bien plus grande encore que le récit d'origine. Et là, j'ai envie de dire, la difficulté en lisant ce texte pourrait être celle un peu que nous pouvons avoir en lisant certaines paraboles. Quand on lit certaines paraboles, surtout si on est jeune croyant, qu'on a envie de tout comprendre, de tout décortiquer, de s'arrêter sur chaque mot, eh bien, on peut être dévié du sens d'une parabole parce qu'on veut expliquer tous les détails de cette parabole. Or, si on veut comprendre une parabole, il faut chercher quelle est la pointe de cette parabole. Et c'est selon la pointe qui nous est donnée de la parabole que nous voyons le reste prendre son sens. Eh bien là, de même, dans ce qui nous est donné, dans cette allégorie, si nous voulons comprendre l'allégorie, nous devons comprendre la référence que Paul fait en parlant de la réalité d'Abraham et de la réalité du texte d'Ésaïe ici. Dans cette réalité, Paul fait clairement référence au fait qu'Abraham a eu deux fils, l'un né d'Agar, servante de Sarai, l'autre étant né de Sarai. Et clairement, Paul emploie un vocabulaire illustrant son propos, l'un mène à la servitude, l'autre est le fruit de la promesse et donc la liberté. Et ce terme de servitude et de liberté, on l'a vu plusieurs fois, mais on l'a vu entre autres la dernière fois, c'est en lien avec le vocabulaire du texte de la semaine dernière. Souvenons-nous que les Galates se sont mis sous la servitude de Dieu, de contrefaçon, d'idole ainsi, et se privent de la liberté accordée en Jésus-Christ par l'Évangile, et se mettent sous un esprit de servitude. Et bien là, Paul continue dans sa lancée, cette fois-ci en parlant des deux fils d'Abraham ici. Et Paul cite Ésaïe 54. Alors, peut-être vous comprendrez maintenant pourquoi on a pris ce temps ce matin à regarder ces textes d'Ésaïe 52, 53 et 54. Et pourquoi nous l'avons fait? Bien parce qu'il y a ce verset, ce début de cet hymne, ce début de ce chant du psaume 54, et Paul ici le cite, et cette citation doit illustrer le reste de l'allégorie. En effet, il est écrit, dit Paul, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. » Quand on regarde juste ce texte, on pourrait être très confus. Moi, j'ai été confus en le lisant, en disant, mais il est en train de parler d'Agar. Et pourtant, on comprendrait qu'il veut parler de Sarah. Et bien justement, le contexte montre clairement, le contexte dans Ésaïe montre clairement que c'est la réalité derrière Sarah qui va devenir la mère d'enfants d'une multitude inouïe parmi les nations. Ce texte d'Ésaïe 54 est un chant de joie évoquant la femme stérile, il s'agit bien de Sarah, cette femme qui a été humiliée, qui a été regardée de haut par sa servante et qui pourtant pourra revendiquer la maternité d'une famille plus nombreuse que les étoiles. Et comment savons-nous cela? Eh bien, le contexte d'Ésaïe le montre, l'annonce faite de l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Et la promesse faite à Abraham, c'est que les nations seront bénies. Les nations seront bénies comment? Grâce à l'œuvre inouïe du serviteur souffrant que l'on voit dans Ésaïe 53, c'est-à-dire grâce à l'œuvre de Jésus-Christ donnant sa vie. Ainsi sont de la descendance d'Abraham les enfants de la promesse, c'est-à-dire les enfants des nations, les enfants spirituels, la nouvelle Jérusalem qui n'est pas la Jérusalem présente, mais qui est l'Église de Jésus-Christ. Donc Paul, on pourrait entendre dire Paul le Galate, « Ne voulez-vous donc pas vous réjouir de la promesse faite dans Ésaïe 53 et d'Ésaïe 54 ?» Quand Paul cite ce texte, je ne sais pas combien les Galates le connaissaient, Paul le connaissait très bien. Mais en tout cas, quand Paul le cite, c'est une façon de dire « Ne voulez pas rentrer dans la danse. Ne voulez pas rentrer dans la joie qui est donnée ici. » Pourtant, Alors que vous avez reçu l'Évangile, et on l'a vu la semaine dernière, alors que vous avez connu Dieu, et surtout que vous avez été connu de Dieu, alors que vous êtes enfant de la promesse, qu'allez-vous donc faire sur cette voie du légalisme? Comment pouvez-vous passer tellement à côté de quelque chose ici? Alors, à titre d'information, d'application, de comment on peut aller plus loin avec ce texte, je vous invite à revenir un instant sur Abraham et de nous rappeler que la foi d'Abraham repose sur la promesse que Dieu lui a faite. Dieu lui fait une promesse et donc c'est là-dessus que Abraham pose sa foi. Ce que l'on pourrait appeler le plan A, c'est que Dieu va pourvoir à une descendance dans le temps, disons, raisonnable. C'est comme ça qu'Abraham pourrait comprendre. Le problème, c'est que ce plan A semble ne pas marcher. Donc Sarah a une bonne idée, que l'on pourrait appeler le plan B. Et le plan A, le plan B, c'est pas de moi. J'ai écouté un sermon il n'y a pas longtemps du pasteur d'ailleurs, et Joseph et Savannah en Caroline du Nord. J'ai beaucoup apprécié, j'ai aimé le plan A, le plan B. Je reprends donc l'image ici, elle n'est pas de moi. Mais on pourrait dire que Sarah a une bonne idée qu'on pourrait appeler le plan B. Le plan B, ce n'est pas vraiment ce que tu as dit, mais ça assure la finalité des choses. Avec le plan B, Abraham, tu auras une descendance. Et ça sera toi le père, donc on est bon. On est dans ce mode, la fin justifie les moyens. Avec Agar, la foi d'Abraham repose sur une solution venant de lui-même. Mais voilà, c'est manqué. Pourquoi c'est manqué? Parce qu'il a voulu mettre sa part dans l'affaire. Abraham a voulu aider Dieu. Ultimement, lui, le héros de la foi, n'a pas fait les œuvres allant avec la foi. Et là, c'est un point que j'aimerais développer. Qu'est-ce que j'appelle les œuvres allant avec la foi? Abraham a agi, on est d'accord avec ça. Mais il n'a pas agi dans la dynamique des œuvres allant avec la foi. Abraham, on pourrait dire, a pris un raccourci. Il a voulu montrer à Dieu que Abraham avait aussi sa part, et sa part étant du genre, Seigneur, le temps est un peu long. Ne vois-tu pas que bientôt ce ne sera plus possible? Tu devrais le savoir, Seigneur, tu es le Créateur, mais tu dois savoir que quand même, en tout cas moi encore un peu, mais ma femme, ça ne va plus pouvoir le faire bien longtemps. Et là, on a une solution, Seigneur. Eh bien, une chose qui d'ailleurs, semble-t-il, était courante à l'époque. Donc, c'est un peu différent de ce que tu proposes, mais après tout, on peut faire comme les autres personnes, quand ils ont des besoins de ce genre, et faire avancer les choses, tu ne penses pas? Ceci n'est pas une réponse allant avec l'idée des œuvres qui vont avec la foi. En effet, il a reçu une promesse comme quoi ce ne serait pas par un autre moyen, et Dieu, pour cela, a donné sa parole. Le genre de parole qui n'a pas besoin de notre aide. Le genre de parole, par exemple, qui a créé le monde. Le genre de parole qui fait que les choses qui sont dites s'accomplissent sûrement. Alors, comment comprendre les œuvres allant avec la foi? Comment parler de qu'est-ce qu'il faut faire en écho à la foi pour ne pas être en porte-à-faux, pour faire des choses qui vont à l'inverse de la foi ici? Bien, ce que je vous propose, pour certains d'entre vous, ça sera du déjà vu, mais je vous propose de voir précisément ici, avec la situation d'Abraham, je vous propose de voir ce que l'apôtre Pierre en dit. Pierre, en effet, dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Pierre dit encore « Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. » Abraham a reçu des promesses extraordinaires qui lui sont données par Dieu et qui sont là pour alimenter sa foi. Eh bien, Pierre dit « Comment rentrer en action avec cette foi ? » À cause de cela même, dit-il, « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. Alors, exerçons-nous à voir comment Abraham aurait pu mettre en pratique la mise en œuvre de sa foi. Appliquée dans la situation d'Abraham, la promesse donne le contenu de la foi. La promesse, ce que Abraham doit croire, ce en quoi il peut mettre sa confiance, la parole de Dieu qui est fiable. Dieu s'est engagé à donner à Abraham, par sa femme, Sarah, Dieu s'est engagé à donner à Abraham une descendance, source de bénédiction pour toutes les nations, et une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Or, il est dit dans le livre de la Genèse, il est dit qu'Abraham crut en l'Éternel et que cela lui fut compté comme justice, c'est le chapitre avant, dans le chapitre 15, avant le chapitre 16, c'est-à-dire que sa foi ne repose pas sur son imagination, ne repose pas sur ses désirs, mais sa foi repose bel et bien sur la parole de Dieu. Pierre donc présente le processus, et imaginons une scène tout à fait irréaliste, mais imaginons la scène. Imaginons que Abraham vienne voir Pierre, et imaginons que Pierre soit le mentor d'Abraham. Hein, ça se fait bien aujourd'hui d'avoir des mentors. Eh bien, imaginons un instant donc que Abraham se pose des questions parce qu'il voit, il voit que la promesse ne s'accomplit pas. Il questionne sa foi. Donc, il vient voir Pierre. Il vient voir Pierre et il lui dit alors, donc, en imaginant qu'il vienne voir Abraham pour le consulter, on pourrait imaginer donc Abraham dire à Pierre, « Qu'en penses-tu ? Dieu a dit cela, mais je vieillis et je ne suis pas vraiment sûr que ça va marcher. » Et son mentor, Pierre, de lui répondre, « Abraham, avant toute chose, fais tous tes efforts pour joindre à ta foi la vertu. » C'est-à-dire, si Dieu te l'a dit, et si même tu l'as cru, si même cela t'a été compté comme justice, si tu en as fait ta confession de foi, si tu en as fait l'assise sur laquelle tu étais, alors pratique. La vertu ici, c'est, on retourne dans cette actualité, c'est régulier dans l'actualité ici, hein, en période de match de foot. Et en période de match de foot, on a le fan club, hein, on a les gens qui sont là, c'est-à-dire qu'ils croient en leur club, et qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils croient en leur club? Eh bien, ils mettent leur foi en action, c'est-à-dire qu'ils deviennent des supporters. On a pris le mot anglais ici. Hein. Eh bien, la vertu ici, c'est d'être un supporteur de la foi, c'est-à-dire ce que je crois, je le mets en action, je le mets en pratique, je le fais. Même si je ne le comprends pas, je le fais. On peut entendre Pierre dire à Abraham, « Abraham, avant toute chose, fais tous tes efforts pour joindre à ta foi la vertu. Pratique-le. » Mais ça va être vite frustrant. C'est la première étape. Ça va être vite frustrant, surtout pour Abraham, pour qu'il t'endure un petit peu ici. « Puis, dirait Pierre, ben, il le dit, mais il le dirait à Abraham, « Puis, fais tous tes efforts pour joindre à la vertu la connaissance. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Abraham, cherche à comprendre ce que Dieu veut dire. Creuse un petit peu la question, comment Dieu fonctionne. Regarde un peu comment il s'y prend quand il dit quelque chose. Par exemple, est-ce que ce qu'il dit qui va se fait tout de suite? Parfois oui, parfois non. Cherche à comprendre ce que Dieu veut dire, plutôt que de proposer des solutions qui sont, on pourrait dire, discutables. Dans le cas d'Abraham ici. Puis fais tous tes efforts pour joindre à cette connaissance la maîtrise de soi. Là, j'ai mis dans mes notes pas de commentaire. Pas de commentaire pour demander à Abraham de garder de la maîtrise de soi. Si le moment ne vient pas, tiens ferme. Tiens ferme et tiens d'autant ferme que tu comprends mieux comment Dieu fonctionne et que tu mets en action ce qu'il t'a dit de croire. Poursuis tes efforts en joignant à la maîtrise de soi la persévérance. Et ô combien Abraham va en avoir besoin. Ça va être très long de voir Dieu accomplir sa promesse ici. Et continue en y joignant la piété. La piété ici, ça serait semblable à dire, crée-toi un style de vie, crée-toi une habitude reposant sur ce que tu crois, sur ce que tu as compris. Fais en sorte qu'il y ait des mécanismes dans ta vie qui reflètent ce que tu crois en prenant pour acquis, par exemple, que Dieu ne fait pas toujours des réponses aussi rapides qu'on le voudrait. Puis joins à la piété la fraternité, c'est-à-dire tu mets en commun ce que tu apprends, tu en fais profiter d'autres. Comme moi, Pierre, je t'en fais profiter. Et Pierre pourrait lui dire à ce moment, tu sais, moi j'ai eu un maître quand même qui dépasse tous les maîtres terrestres. J'ai appris des choses très fortes avec mon maître Jésus-Christ. Puis, enfin, vis-le dans une relation d'amour pour Dieu et pour les autres. L'attente que tu as de ne pas voir Dieu répondre à sa promesse, l'attente que tu as peut devenir un culte, une joie de vivre, parce que tu sais que Dieu t'aime. Tu sais qu'il veut le meilleur pour toi et pour le monde. Tu sais que ce qu'il a dit est absolument incroyable et époustouflant, et tu penses qu'il va l'oublier ? Non, il ne va pas l'oublier. Ne t'en inquiète pas. Alors vis dans la joie et la paix, et laisse-le émerveiller, t'émerveiller de la façon dont il va s'y prendre. Qui sait ? Peut-être que cela va changer la face du monde. D'ailleurs, Abraham, si je peux me permettre, en faisant tout cela, tu seras bien préparé pour une autre étape que le Seigneur pourrait te demander, du genre, si je te donne un fils, seras-tu prêt à me le rendre ? J'arrête là l'illustration de Pierre, mentor d'Abraham, mais je relis cet extrait de l'épître de Pierre et réentendons tout cela. Imaginons Abraham entendre cela. Quand Pierre dit, et il le dit à nous, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, continue Pierre, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela va se faire avec Sarah. Il va apprendre la leçon de la mise en application de la foi. Le fruit de la promesse sera l'évangile dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Alors on peut entendre Paul dire aux chrétiennes et aux chrétiens de Galates, revenez à la raison, vous êtes enfants de la promesse. Moi, l'apôtre Paul, je vous le dis. Et il est intéressant de voir que Paul dit aux Galates, dans l'état où ils sont, vous êtes les enfants de la promesse. Ce n'est pas Samuel qui vous le dit, ce n'est pas la chapelle de Nel qui vous le dit, c'est l'apôtre de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, verset 28, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. C'est donc une parole certaine venant de Dieu. C'est donc une assise de votre foi. Je pourrais imaginer les Galates dans leur concept théologique, comme peut-être beaucoup de chrétiennes ou de chrétiens. Je pourrais imaginer, vu l'écart qu'ils ont fait, dire ce que Paul ne dit pas, dire hey, hop, raté, vous avez manqué le coche, dommage, votre légalisme vous a égaré et c'est maintenant terminé, vous n'êtes plus des enfants de Dieu, vous n'êtes que des fils de la servante, etc. Ce n'est pas ce que dit Paul. Ce n'est pas du tout ce que dit Paul. Ils se sont égarés, il le dit, mais il les interpelle en disant, vous êtes des enfants de la promesse. Alors, ressaisissez-vous et mettez votre foi en action. C'est toute l'œuvre de cet épître. Paul fait tout pour ramener à la raison les Galates. Paul fait tout pour les ramener à l'Évangile. Il fait tout pour les libérer de la servitude pour les ramener à la vie. Alors j'arrive au moment de conclure avec ma question habituelle. Et nous dans tout ça? Que devons-nous en penser? Alors une citation de C.S. Lewis est interpellante. Un extrait d'un livre qui, sauf erreur, n'est pas en français, The Weight of Glory. Et voici un extrait très connu pour ceux qui connaissent, dont je vous en propose une traduction. Si nous prenons en considération les promesses éhontées et la nature renversante des récompenses promises dans les évangiles, il semblerait que notre Seigneur ne trouve pas nos désirs trop forts, mais trop faibles. Je reprends. Si nous prenons en considération les promesses éhontées et la nature renversante des récompenses promises dans les évangiles, il semblerait que notre Seigneur ne trouve pas nos désirs trop forts, mais trop faibles. Nous sommes des créatures au cœur partagé, jouant avec la boisson, le sexe et l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte, tel un enfant ignorant, désirant jouer à faire des gâteaux de boue dans un bidonville parce qu'il ne peut imaginer ce que signifie l'offre faite de vacances à la plage. Et cette petite phrase, nous nous trouvons bien trop facilement satisfait. Nous nous trouvons bien trop facilement satisfait. Nous sommes des enfants de la promesse. Nous sommes des enfants de la promesse. Cela veut dire que Dieu a donné sa parole. Il s'est engagé vis-à-vis de nous. Et cela veut dire que Dieu tient et tiendra son engagement. Il s'est engagé en Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit tout à l'heure pendant la liturgie, il ne nous a pas aimés parce que Jésus-Christ a payé pour nous, c'est parce qu'il nous a aimés que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il nous a avant tout aimés, et c'est là l'évangile. Rappelons-nous que l'évangile ne dépend pas de nous, pas même le moindre petit bout comme Abraham a cru comprendre dans un premier temps. L'évangile ne dépend pas de nous. Ce que Jésus a pensé pendant qu'il était sur la croix, c'était probablement Ésaïe 53. Et ce que Jésus a pensé au moment où il était crucifié, au moment où il était meurtri, au moment où il prenait les fautes sur lui, il a pensé à tous ses enfants qui vont être donnés à Sarah. Et c'est pourquoi il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il nous appelle, il nous interpelle, il nous offre ses promesses, il nous offre sa parole, et il nous offre même les signes de son engagement, alors même que nous n'avions encore rien fait, ni en bien, ni en mal. Dieu nous les donne, et nous les donne comme une promesse. Et rappelons-nous, il donne à Abraham la promesse, et il donne aussi à Abraham le signe de son engagement. Quand Abraham est circoncis, il donne ici le signe de son engagement, engagement qui va signifier que dans l'avenir, dans la descendance d'Abraham, naîtra un homme qui va donner son sang et qui va mourir pour nous. Il donne à Abraham de poser ce signe sur ses fils et sur les fils de ses fils, afin que ses fils reçoivent sur eux le signe qui leur donne de voir ce qui va s'accomplir en Jésus-Christ. Dans un instant, nous allons poursuivre notre culte avec les baptêmes de Lucie et de Serena. Qu'est-ce sinon le signe de la promesse de Dieu, de son engagement pointant vers le fait que Christ n'est plus annoncé comme la circoncision le faisait, mais est venu, il est mort, il est ressuscité. Ainsi va être posé sur Lucie et Serena ce signe de la promesse de Dieu, ce signe de l'engagement de Dieu auquel ces deux petites filles vont être invitées dans leur vie à répondre par la foi, portant sur elles le signe de l'évangile de Jésus-Christ qui leur a été donné. Et nous, sommes-nous baptisés? Si nous sommes baptisés, cela veut dire que nous portons ce signe de la promesse de Dieu. Est-ce que nous y répondons? Est-ce que notre foi repose sur le contenu de ses promesses et est-ce que nous mettons en action ces fois en y faisant tous nos efforts pour y joindre la vertu auquel nous faisons tous nos efforts pour y joindre la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance. Ne nous fatiguons-nous pas un peu trop vite? Par le sacrement du baptême, suivi du sacrement de la scène, nous voulons nous rappeler que Dieu s'est engagé et nous voulons nous rappeler qu'il nous invite à nous engager en retour par la foi. Je termine juste ceci en disant ceci. Il me semble clair dans le propos de Paul et dans l'attitude de Paul vis-à-vis des chrétiennes et des chrétiens de Galate que Paul n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pas trop tard. Il est encore temps pour les chrétiennes et les chrétiens de Galate qui se sont détournés, qui ont sombré dans le légalisme, qui se sont détournés de l'évangile, il est encore temps d'y revenir. Est-il temps pour nous d'y revenir? La réponse est claire que oui. C'est encore temps de revenir. C'est encore temps de remettre la foi, le contenu des promesses devant nous et de nous dire, Seigneur, si tu l'as dit, c'est que c'est vrai. Alors je vais m'y accrocher et aller de l'avant. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui n'est pas vaine, qui n'est pas vide. Merci pour ta parole qui est totalement extraordinaire. Et Seigneur, pardonne-nous les fois si nombreuses où nous ne te croyons pas, où nous ne te croyons plus. Pardonne-nous toutes les fois où notre impatience nous donne de vouloir aller vite et parfois même de nous compromettre. Pardonne-nous toutes les fois où nous baissons les bras et où plus rien n'avance. Mais Seigneur, tu nous appelles. Tu nous interpelles avec une patience inouïe. Et comme l'apôtre Paul le fait, tu nous appelles peut-être à nous relever ce matin, à être interpellés. Peut-être tu nous appelles en train de dire les choix que nous avons faits ces derniers temps qui nous écartent de toi, qui ramollissent notre âme devant toi. Peut-être tu es en train de nous dire, regarde un peu où ça te mène, c'est ça que tu veux? Ne veux-tu pas être libre? Ne veux pas être dans ma présence? Ne veux-tu pas être dans la joie de la liberté, de pouvoir être libéré de l'esclavage d'Égypte pour aller me célébrer et rendre un culte à 3 jours de marche dans le désert? Ne veux-tu pas vivre, sachant que ce que je t'ai dit, je le ferai jusqu'au bout? Sachant que tout ce que je te demande, c'est une réponse de foi, et de foi qui va être mise en action. Seigneur, tu nous connais chacune et chacun ce matin. Et combien nous te prions que là où nous en sommes aujourd'hui, tu nous prennes et tu nous donnes de revenir à toi. Et tu nous donnes de mettre en pratique et de chercher à comprendre et de persévérer et de grandir ainsi dans notre adoration. Seigneur, relève-nous d'où nous pouvons nous trouver. Fortifie-nous et donne-nous de vivre la beauté de l'Évangile. Et puis Seigneur, peut-être je réalise que je n'ai même pas encore fait ce pas de foi et que peut-être il est temps de le faire. J'entends ton appel, j'ai soif d'être libéré, j'ai soif de pouvoir marcher dans les mains d'un maître si bon et si doux dont le joug est léger. Alors Seigneur, je veux répondre à ton appel. Je veux répondre à l'appel qui dit « Venez, vous tous qui avez soif. Venez, prenez et mangez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes comme des petits-enfants. Venez à moi, petits-enfants. » Seigneur, nous voulons venir vers toi. Prends-nous et accompagne-nous. Et nous t'en rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ.